Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Start spreading the news.
Salut à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir à toi, Franck Sinatra. On est chez toi, New York, avec Florent Gautreau qui est désormais chez lui également. Salut Flo.
Salut, Franck Sinatra, c'est d'autant plus chez nous qu'il est natif de Hoboken, la ville à côté de laquelle on est logé.
Eh bien, tu me l'apprends. D'accord, Hoboken dans New Jersey.
Il y a sa statue à Hoboken.
En face de Manhattan, exactement, où nous sommes depuis un mois. Lui, il est vraiment chez lui également, c'est Maxime Chano. Salut Maxime.
Salut à tous. Je ne suis pas d'Hoboken, mais vraiment de New York.
Oui, de New York, quoi. Manhattan. Manhattan.
Bon, j'ai bon goût.
T'as bon goût. T'as de l'argent peut-être aussi, c'est-à-dire ça. Les amis, à l'instant, la qualification historique. N'ayons pas peur des mots pour l'Égypte, pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Première victoire dans un match à élimination directe pour ce mastodonte du continent africain. Anomalie pour l'instant, eh bien, déjouée. Il avait déjà fait, on voyait avec Flo, un huitième de finale. C'était en 1934, lors de la deuxième édition de la Coupe du Monde. Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale à l'issue d'une séance de tir au but face à l'Australie. On va débriefer ça dans un instant. Venez, supporters égyptiens, au 32-16. Parlez avec Flo, avec Max également, la projection pour la suite de la compétition. Qu'est-ce que vous pensez du match de Salah, d'Achour également, notamment dans cette confrontation, la joie des Égyptiens qui sont en larmes, littéralement. Je ne sais pas si on a encore notre commentateur avec nous sur ce match-là. Il est parti. Nous, on a les images ici. Il fait ça comme une qualification pour la finale de la Coupe du Monde, Flo.
Hein. Ah oui, mais c'est normal. Hein. Ils sont 7 fois champions d'Afrique, mais comme tu l'as dit, ils avaient un 8ème de finale très lointain en 34. Donc, évidemment, j'ai envie de dire, c'est logique qu'ils fêtent ça. Même si on va y revenir, ils n'ont pas fait un grand match du tout. Parce que la logique veut que effectivement l'Égypte soit au-dessus de l'Australie. Ils l'ont pas montré énormément dans ce match-là, et ça nous laisse songeurs quant au parcours de l'Argentine, parce que l'Argentine, si elle se sort du Cap Vert, va affronter l'Égypte ensuite. Donc le parcours de l'Argentine décidément est pavé de roses.
Pavé de roses.
C'est bien dit.
C'est bien dit.
Ouais, c'est bon. Très beau.
Qu'as-tu pensé? Est-ce que tu vibres? Tu frissonnes devant la sélection égyptienne? Hein, on a du mal, même pendant une CAN, hein, c'est en général pragmatique.
Ouais.
Et là, c'est pareil.
Oui, oui, oui. Est-ce que vraiment c'est l'Égypte ou c'est ce format de la Coupe du Monde, moi, qui ne me plaît pas, ou est-ce que c'est vrai que je m'attendais quand même à voir des oppositions un peu plus élevées en par rapport au niveau. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une Coupe du Monde à 48 et on a dit il y a des plus petites équipes. Je n'ai rien contre l'Australie, je n'ai rien contre l'Égypte, en effet, qui nous ont déçus un petit peu aujourd'hui dans le contenu. C'était un match tendu, il n'y a pas eu énormément d'occasions et finalement les Égyptiens s'en sortent grâce au tir au but. Avec une particularité, c'est que le sélectionneur australien avait fait le choix de faire rentrer Matthew Ryan, hein, le gardien de but, le numéro 2, et finalement ça n'a pas fonctionné, comme quoi parfois il faut mieux faire confiance à son choix numéro 1, son instinct. Ouais, j'étais un peu déçu, Nico, mais comme pas mal de petites équipes, je sais pas si je peux appeler l'Égypte une petite équipe, mais Australie, Égypte, non, je me suis pas ouais, vraiment amusé devant le match, en tout cas.
Tout à fait. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a une star de plus de ce mondial, une légende du foot mondial qui sera au rendez-vous des huitièmes de finale.
Ouais, mais il y a deux types de stars. T'as ceux qui sont, on va dire, leur prime ou pas loin.
Tout à fait.
Et puis t'as quand même une partie des stars, Modric, qui sont en mode pré-retraite.
T'as ceux qui sont en pleine bourre dans leur carrière et ceux où est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui cette Coupe du Monde c'est un peu The Last Dance.
C'est clairement The Last Dance.
On a vu Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, c'est sûrement le cas pour Mo Salah aussi. Et c'est vrai que ces stars-là, parce qu'ils nous ont fait vibrer pendant des années et des années sur la scène.
C'est une bonne nouvelle, ils sont encore là en huitième de finale.
Oui, c'est une très bonne nouvelle. Après, à quel niveau, Nico, c'est ça? Quand je vois Cristiano Ronaldo, quand je vois Mo Salah aujourd'hui, quand je vois Kevin De Bruyne, c'est un peu la place aux jeunes quand même. Hein.
Après, tu vois, pour revenir à l'Égypte, imagine que ça se termine, ce qui ne serait pas illogique contre l'Argentine derrière. Tu te dis, tu as fait un tournoi dans lequel tu as donc fait nul contre la Belgique, tu as certes battu la Nouvelle-Zélande, tu as fait nul contre l'Iran et tu as fait nul contre l'Australie que tu as éliminé au tir au but.
J'imagine les matchs.
Tu vois, oui, évidemment, la formule fait que tu es allé en huitième et tu as raison sur ta stat, tu as gagné ton premier match à élimination directe, mais je suis désolé.
D'ailleurs, tu l'as pas gagné, hein.
Ouais, en plus t'es passé quoi.
T'es qualifié quoi.
T'es qualifié. C'est pour ça que moi je veux pas remettre en cause. On va pas faire ça toute la. La formule tout le temps. Mais en tout cas, il faut juste moi c'est remettre en cause les stats qu'on sort de cette formule. Tu vois, en disant exploit machin. Non. Et là, ils sont dans une formule qui aura permis d'avoir des matchs parfois un peu moyen et d'être quand même en 16e. Et donc, il se retrouve avec une stat qui est celle que tu as donnée. Première fois que tu te qualifies en match à élimination directe.
Mais okay. Tout le monde est en train de battre les records, individuellement parlant, collectivement parlant aussi. Tu l'as dit avec cette statistique-là pour l'Égypte. On va pas revenir sur le
t'as
débat.
T'as dit, c'est parallèle, les combinaisons en natation.
Pour moi, c'est la même chose.
Dès lors qu'il y a des combinaisons, ça y est.
Si on a la même chose.
Les records sont tombés les uns après les autres, c'est pareil avec la nouvelle formule.
C'est plus ou moins la même chose. Alors, on va pas revenir et refaire le débat.
Non, mais c'est.
Du monde, nouveau format 48. Mais finalement, regarde, ça commence à devenir intéressant, quoi, à partir des quarts de finale. On a eu exactement la même chose avec la CAN en début d'année. Voilà, bah il faut le dire, hein, si c'est un tour de chauffe, et ben dans ce cas-là, la prochaine fois, moi je prendrai mes tickets qu'à partir des quarts de finale et je dirai aux fans, ne venez pas tout de suite, si vous voulez voir du spectacle arriver que sur la deuxième semaine.
Voilà, il faut la fête, hein. Tour d'honneur, Mo Salah, il est encore sur la pelouse avec tous ses coéquipiers. Tout le monde danse, là c'est Atta qui danse également. Trezeguet là aussi, Saber aussi, bref.
Mais c'est
jour de gloire, jour de fête pour l'Égypte. D'ailleurs, plus globalement, vas-y Flo, après je dirai un mot sur les pays africains. Vas-y.
Non, je voulais juste revenir sur le match en disant, bon, ils sont passés, ils le méritent. Hein. On reparlera aussi de la série de tirs au but et du choix, effectivement, dont parlait Max tout à l'heure sur le changement de gardien, avec le sélectionneur qui tente une Van Gaal. Évidemment, c'est facile de dire ça après, mais le gardien Beach avait été très très bon depuis le début. Grand gardien en plus qui parfois visuellement gêne plus que les petits gardiens comme Ryan. Bon bref, un choix qui n'a pas été couronné. Et puis sinon, pour revenir sur le match, ça a été méga équilibré. On s'attendait pas forcément à ça. C'est-à-dire que quand tu regardes les stats, t'as à peu près le même nombre d'occasions, plus de tirs pour l'Australie que pour l'Égypte. Donc tu vois, c'est vraiment le match mérité entre guillemets de se terminer au tir au but. Et je comprends la déception des Australiens, mais vu leur manque de maîtrise dans les tirs au but, ils avaient tout intérêt quand même à terminer avant.
Mais là t'envoies ton défenseur central pour tirer le premier, c'est Soutar qui frappe, et on va dire quasiment un bon mètre au-dessus de la barre transversale.
Pas facile. C'est pas facile.
De tirer un bon match
ouvert. Non, mais on a le sentiment que c'est simple les tirs au but, mais il y a une histoire de pression, une histoire aussi d'entraînement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu les travailles, hein, les tirs au but. Hein, t'arrives pas comme ça.
Ah non, mais j'imagine que la jambe tremble beaucoup plus qu'à l'entraînement. Non,
mais là, l'expérience fait la différence. Tu vois, alors autant l'Égypte a eu des défauts, n'a pas été génial dans ce match, mais ils ont l'expérience des phases finales de Cannes. C'est des joueurs qui ont déjà fait des séries de tirs au but. Je pense que là, les Australiens ont été rattrapés par la pression à ce moment-là. Donc peut-être qu'il n'y avait pas mieux que le défenseur central, parce que moi, je connais pas. Je peux pas te dire si t'es un attaquant. Souvent, on dit que les joueurs offensifs sont quand même un peu
plus à l'aise,
plus à l'aise. Et en l'occurrence, tu les mets souvent les plus à l'aise en début de série. Bon, s'ils ont mis
le capitaine,
j'imagine qu'il y a une raison. Peut-être qu'il tire parfois les pénalties, mais en tout cas, il l'a pas bien tiré du tout.
Après, il faudrait se poser la question, pourquoi l'Égypte, qui a un grand Afrique, hein, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, se retrouve à devoir aller jusqu'au tir au but contre une équipe d'Australie qui est quand même longue.
On en parlera ce soir.
Et c'est vrai qu'on pourrait faire le parallèle avec les autres nations africaines qui, moi, m'avaient fait énormément plaisir dans la manière de jouer. En tout cas, pendant cette CAN, je l'avais dit en début d'année. Vraiment, j'avais été surpris.
Là, on est un peu déçu, on va le dire honnêtement.
C'est vrai que sur cette Coupe du Monde, bon, il y a le Maroc, évidemment, hein, qui brille. Mais je reste un petit peu sur ma fin sur les nations.
On n'a pas le prolongement des espoirs entrevus pendant la Coupe d'Afrique des Nations, hormis le Maroc, qui confirme encore une fois qu'il est l'étendard, l'ambassadeur du continent. On a 2 sur 7 pour l'instant, qualifiés pour les 8e de finale. Il en reste encore 2, hein. Il reste le Cap Vert et le Ghana.
En fait, sur le Maroc, puisqu'on va pas en parler après, mais avec un changement de sélectionneur, donc il y avait quand même une petite interrogation, tu vois, sur le fait qu'il pouvait faire aussi bien Craig Raggi, et de fait je trouve qu'il a pris le bon bout, l'équipe par le bon bout.
Et moi j'ai aimé par rapport au Maroc, si je peux me permettre très rapidement, c'est que Wabi il a eu l'intelligence de pas tout refaire depuis le début, c'est-à-dire qu'il a gardé ce qui faisait de bien sous Craig Raggi, hein. On le savait, Craig Raggi, on l'appelait justement un peu le Deschamps marocain, était très pragmatique, c'était très très costaud derrière. Je trouve que Wabi, c'est quand même il a quand même eu cette intelligence, encore une fois, de garder ça, de garder cette ossature défensive,
mais
et derrière
de
mettre un petit peu plus justement d'étincelles, de jeu offensif. Et c'est vrai qu'avec un Saïbari, avec une doublette là, Boidi, Al-Aoui, qui pour moi sont exceptionnels, je trouve que en effet Boidi, les deux là se font énormément de bien, ce Maroc. Mais en tout cas, Wabi et le Maroc en règle générale brillent aujourd'hui, et c'est vrai que si tu compares avec les autres nations africaines, c'est finalement le Maroc qui est le porte-étendard du continent africain.
Voilà pour cette qualification de l'Égypte pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Flo Germain est avec nous. Salut Flo.
Salut Nico, salut à tous.
Membre de la cellule équipe de France qui a migré désormais à Philadelphie. C'est le mois américain de Flo, Fabrice, Jean-Louis, Arthur, Valentin sur la côte est américaine. Flo, tu es dans la ville où la dépendance des États-Unis a été déclarée il y a presque 250 ans. moins un jour. Ce sera un événement demain dans la ville où tu te trouves. Et les Bleus vont jouer ce duel, ce match face au Paraguay. 23h pour ce huitième de finale de la Coupe du Monde. Tiens, information rapide, déjà Marcus Thuram est forfait, Flo. C'est confirmé ça aussi.
Oui, c'est confirmé. C'est le seul absent du match pour demain. D'ailleurs, l'entraînement est en train de commencer sous nos yeux là. Ils ont changé de terrain d'entraînement pour une veille de match. Quand ils étaient venus à Philadelphie, ce n'était pas ici là. C'est au centre d'entraînement des Eagles, qui est un club de football américain évidemment local. Et la pelouse en parfait état. Ça, c'est bien de le signaler. Je regardais cette consigne très bien respectée, parce que vous savez que le service médical a mis en place des protocoles très stricts, notamment en termes d'hydratation. Donc il faut s'arrêter quasiment toutes les 20 minutes pour boire, et également avant la séance prendre le temps de se rafraîchir. Donc j'ai vu tous les joueurs qui étaient passés par la case avec évidemment les bouteilles d'eau, la glacière, etc. Donc on prend soin de tout cela, parce que tu parlais des parades par rapport aux festivités aux 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Pour la petite anecdote, ça peut faire sourire, mais devait y avoir dans les rues de la ville aujourd'hui une parade géante qui a été au final annulée à cause des conditions, à cause de la canicule, à cause de la chaleur. Donc il faut imaginer une ville de Philadelphie où il y a beaucoup d'Américains qui se sont déplacés, qui sont venus notamment pour ces festivités. Et même malgré cet engouement, eh bien, il y a une chaleur implacable, et du coup qui a forcé les autorités à prendre quand même des décisions. C'est bien qu'on aura quand même demain une température qui devrait baisser très légèrement, mais qui sera quand même pas loin des 40 degrés en termes de ressenti, un taux d'humidité de 50%. Donc c'est forcément un paramètre qui comptera, même si à la fois Didier Deschamps et les Paraguayens ont tous répété, Désiré Doué également, que ce serait pareil pour les deux équipes. Mais on peut imaginer que en termes de rythme, ça aura très clairement un impact sur la rencontre.
Bon, écoutons le sélectionneur que tu as rencontré et interrogé à l'instant en conférence de presse concernant la chaleur. Est-ce risqué de jouer avec une température qui flirte avec les 40 degrés? Écoutez.
La chaleur, ça n'a pas d'incidence sur le fait d'attaquer, de défendre. On a fait ce qu'il fallait à travers différents protocoles, même si on a eu moins chaud jusqu'à maintenant. On est arrivé à Clairefontaine, les trois premiers jours, c'était très très chaud aussi. Il y a des périodes, deux, trois jours. Est-ce qu'il y aura de la pluie, des orages? J'espère pas, mais c'est un élément que ça puisse avoir une incidence. Oui, on est au cinquième match, donc il y a des organismes qui ont été déjà sollicités, avec des temps de récupération qui sont pas forcément les mêmes, le temps de jeu qui sont pas les mêmes. Mais bon, je fais pas une fixation sur la chaleur, mais avec le staff médical, on a fait en sorte de mettre en place différents protocoles pour limiter cet aspect-là.
Évidemment, les deux seront concernés par la chaleur. Hein. C'est pas forcément non plus un avantage pour les Paraguayens. Tu connais ce genre de chaleur, toi, hein?
Écoute, je connais très bien.
Qui a joué partout dans le pays.
Je connais très bien, pour avoir joué plus de 10 ans, tu l'as dit, aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est pas facile. Alors, il faut arriver aussi à comprendre, parce qu'on a tendance à comparer un petit peu avec la chaleur européenne. C'est pas la même chose. C'est vraiment l'humidité qui est très, très compliquée ici. Même t'as presque du mal à respirer. Derrière, évidemment, c'est toujours la même chose aussi, hein. Quand t'es fatigué, bah, les efforts sont beaucoup plus difficiles. Et surtout, t'as une perte de lucidité. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a vu quand même certaines erreurs techniques qu'on voyait pas forcément pendant la saison. Je pense que c'est aussi dû par rapport à ça. Et évidemment, le joueur européen en tel qu'il est, c'est vrai qu'il a pas forcément l'habitude d'avoir ce genre de conditions climatiques. Et ça peut jouer, même si, attention, je tempère, parce qu'il y a énormément de stades aussi qui sont couverts, ce qui n'est pas le cas à Philadelphie, mais ce qui est le cas dans beaucoup de stades. Quand c'est couvert, qu'il y a la clim, bon, voilà, les pauses fraîcheurs, l'humidité, je pense qu'on peut mettre de côté. Mais en ce qui concerne les Bleus, en tout cas, tout ce qui est Boston, oui, un stade de Foxborough qui est ouvert, c'est la même chose à Philadelphie. Là, clairement, ça peut être quelque chose qui peut impacter les joueurs.
Justement, vous savez, on a un dispositif très riche, hein, jusqu'au bout pendant la Coupe du Monde. On est avec Flo Germain en direct de Philadelphie. On est également avec Nico Pelletier en direct de Boston. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Tu as bossé, Nico, justement sur les règlements FIFA notamment. Il y a des rumeurs de reprogrammation de certains matchs, notamment du match de l'Angleterre, Nico.
Hein, oui, oui, c'est plus que des rumeurs, parce qu'on nous a confirmé, entre guillemets, de plusieurs sources concordantes, qu'il y avait des discussions en cours entre la fédération anglaise, la fédération mexicaine et la fédération internationale, donc la FIFA, pour reprogrammer le match entre le Mexique et l'Angleterre, programmé dans la nuit de dimanche à lundi. Alors on va parler en horaire français pour que tout le monde comprenne, parce qu'autrement c'est compliqué avec tous les décalages horaires. Mais le match devait avoir lieu dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin, heure française. Il pourrait être décalé à 19h, heure française, dimanche soir, pour des raisons alors liées aux orages sur la zone de Mexico, mais aussi pour des questions de sécurité. La FIFA n'a pas beaucoup aimé les débordements après la qualification du Mexique cette semaine en pleine nuit dans les rues de Mexico lors de la qualification. Donc il y a eu des débordements, il y a eu des graves incidents, et donc la FIFA n'a pas beaucoup aimé ça, les autorités mexicaines non plus. Donc on veut avancer cette rencontre, donc ça donnerait à midi heure locale. Et alors ça rend fou de rage la Fédération anglaise de football, déjà de jouer à midi en heure locale du côté du Mexique, mais aussi pour une autre raison, et qui est aussi logique et qui découle de ce changement de programmation, c'est que de nombreux supporters anglais, vous savez, ils sont très très nombreux, avaient programmé leur billet d'avion le matin du match, et donc d'arriver à une demi-heure du match, surtout dans la zone de Mexico City, ça rend fou de rage la Fédération anglaise. Donc il y a de très grandes discussions en ce moment même entre les trois parties pour savoir si on décale ou pas le match. Ce qui est un peu aussi complètement dingue, c'est qu'à deux jours d'un match international d'une Coupe du Monde, il n'y a aucune indication qui est donnée aux supporters, aucune information, aucun début d'information. C'est obligé, on est obligé de suivre les médias pour suivre cette actualité. Et ce qui découle, je termine, ce qui découle de ce match-là, de ce possible report à 19h, donc en heure française, le match du Brésil face à la Norvège, programmé à 22h heure française dimanche soir du côté de New York. Là aussi, chaleur extrême du côté de New York pour dimanche. On pourrait le décaler d'une heure, il pourrait passer à 23h heure française. Tout cela pour pas que, en cas de prolongation du côté du Mexique, on empiète sur le match entre le Brésil et la Norvège.
Ça nous permettrait d'y aller peut-être voir ce match après l'émission. Hein. Ça serait une très bonne nouvelle, Maxime.
Non, c'est vraiment une possibilité vraiment de décaler le match sans prévenir les supporters. Mais je pense quand même à la logistique, tu l'as dit, pour tous les Anglais.
Si c'est une heure plus tard, c'est pas dramatique à la limite, tu vois. Donc, pour les Anglais, en revanche, c'est compliqué.
Ouais, je te parle des Anglais, c'est quand même.
Là, je pense que vu qu'il y avait le match de l'Égypte face à l'Australie, la FIFA n'a pas voulu communiquer pendant la rencontre. Mais je pense que dans les prochaines minutes, on devrait avoir une communication officielle pour l'ensemble des reports, et donc expliquer à quelle heure seront les matchs en heure locale.
Bon, et le match de l'équipe de France ne bougera pas. L'horaire est fixé, il n'évoluera pas. Merci Nico.
Alors petite information aussi, c'est que ça questionne du côté de la Fédération anglaise, de la Fédération brésilienne. Pourquoi on reporte, par exemple, possiblement on reporte le match du Brésil pour des raisons de chaleur, etc. Et pourquoi on n'a pas reporté le match de l'équipe de France? Donc on se questionne de la puissance de l'équipe de France auprès de la Fédération internationale. Donc voilà, c'est l'objet des discussions qui sont actuellement en cours entre toutes les parties.
Merci Nico pour ces infos qu'on retrouve de manière complète sur le site rmcsport.fr. Flo Germain est toujours avec nous après la conférence de presse. Il y a un entraînement en cours des Bleus. Flo, petite alerte ou pas pour Michael Olysée? C'est les infos qui nous parviennent là.
Non, pas d'alerte, mais il faut pas nous faire ces frayeurs-là en pleine Coupe du Monde, quand on voit pas Michael Olysée arriver avec les autres et qu'on se rend compte qu'il est entouré du staff médical assis sur une glacière en train de se faire soigner le pied. C'est vrai qu'il faut le signaler, c'est le genre de joueur qu'on va mettre dans du coton, qu'on va protéger, parce que c'est très clairement l'un des joueurs frissons des Bleus, évidemment. Donc Michael Olysée a effectivement regagné ses coéquipiers un petit peu plus tard, même pas 5 minutes, mais c'est vrai qu'il était braqué par toutes les caméras, par tous les photographe, parce que c'est un joueur star de ce début de Coupe du Monde. Donc même les journalistes étrangers l'ont scruté sur ce début de séance, et finalement, après s'être fait un petit peu soigner le pied, il avait pris un coup un peu rude, hein, rappelez-vous, contre la Suède. Il avait boité quelques petites minutes avant de retrouver le terrain, mais ça va pour Michael Olysée qui a pu être avec ses coéquipiers. Là, ils sont en train en rond de faire quelques exercices d'étirement et d'échauffement avec Didier Deschamps qui tournent autour d'eux. Les trois autres gardiens sont un peu plus loin, ils sont là. Donc il n'y a que Marcus Thuram qui est absent et qui ne participe pas comme annoncé à la séance. Didier Deschamps qui était en conférence de presse pas loin d'ici il y a quelques minutes, tu l'as dit Nico, et qui forcément a été questionné sur le Paraguay parce qu'il y avait aussi des journalistes paraguayens après la conf du Paraguay qui a duré 50 minutes avec des réponses d'un quart d'heure à chaque fois. C'est un style très particulier et qui fait beaucoup sourire parce que Gustavo Alfaro, le sélectionneur, est très philosophe dans sa manière d'expliquer les choses. Didier Deschamps a été plus concis, mais il se méfie, écoutez, du cœur que vont mettre les Paraguayens.
comme toutes les équipes sud-américaines, un grande corazón, comme ils disent, qui va se battre de la première à la dernière minute, mais c'est le haut niveau. En mettant de l'agressivité, oui, mais elle n'est pas arrivée là en battant l'Allemagne avec ça. Hein. Il y a aussi de bons joueurs. Il y en a un qui est en France, à Strasbourg, et Enciso, Almiron. C'est des joueurs qui se connaissent, ils répètent des choses. Ils ont ça en eux, ils ont ça dans leur ADN, et c'est plutôt une qualité. Hein. C'est pas un défaut, mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Autrement, ils ne seraient pas là. Il n'y a pas de hasard pour arriver... Quand on arrive à 8e de finale d'une Coupe du Monde.
Faut-il, les gars, Maxime, Flo et Flo Germain, plus craindre le Paraguay que la Suède? Il y aura un supplément d'agressivité, effectivement. Une Suède qui s'est légèrement plus... qu'elle a en plus ouvert le jeu que le Paraguay devrait le faire.
Bon, pour moi, clairement, oui, c'est plus compliqué. Comme l'a dit Deschamps, d'ailleurs, de manière bon, un peu logique, il dit plus on monte dans la compétition, plus ça va être compliqué. Je le pense aussi parce que le Paraguay a fait son exploit avec une méthode avérée dont a parlé Deschamps également, d'ailleurs, et qu'on connaît très bien. La Suède, moi, je l'avais dit, d'ailleurs, on était, je crois, ensemble la veille du match, c'était plutôt pas mal parce que leurs atouts étant offensifs, ils étaient obligés d'essayer de marquer plutôt que de jouer seulement la défense, qui n'est pas spécialement leur ADN et surtout qui n'est pas spécialement leur qualité première. Donc c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que dans les 20 premières minutes, bah, les Suédois n'ont pas été ridicules du tout. Ils ont tenté avec leurs limites, mais ils ont tenté quand même, et offensivement ils avaient des forces. Là, le Paraguay, on sait très bien que eux, ils s'attendent à aller sur chaque duel, sur chaque mouvement, à être bloc bas s'il le faut. Donc c'est effectivement une donnée qu'on connaît. Deschamps, tous les joueurs la connaissent. Doué a dit qu'ils avaient vu le match contre l'Allemagne, qu'ils ont vu des extraits des autres matchs. Tout le monde a bossé là-dessus. Mais effectivement, pour répondre à ta question, oui, pour moi, c'est plus compliqué. C'est bien sûr pas un adversaire incroyable pour un huitième de finale, mais c'est un adversaire plus compliqué que ce que les Bleus ont joué en 16e.
Max. Ouais, non, moi, je suis d'accord avec l'analyse de Flo. Alors, déjà, pour revenir à la Suède, en effet, c'était une équipe qui jouait un peu plus. Donc, alors, même sur les 20 premières minutes, malgré tout, hein, j'avais eu un peu peur parce que les Suédois étaient quand même assez compacts. Et c'est aussi la raison, d'ailleurs, qu'on n'avait pas beaucoup vu au Lycée. Je pense que l'équipe de France doit s'attendre à exactement le même scénario, non pas sur 20 minutes contre le Paraguay, mais pendant 90 minutes. Moi, j'ai commenté ce match entre l'Allemagne et le Paraguay, et je peux te dire que c'était pas un superbe match. D'autant plus que le scénario était idéal pour les Paraguayens, parce que c'est eux qui menaient 1-0 grâce aux Strasbourgeois Enciso. Après, il faut être très honnête, on n'est pas sur une grande équipe, on n'est pas sur le Paraguay des années 2000.
Paraguay qu'on a pris 4 contre les États-Unis. Hein.
Moi, j'ai regardé justement donc tous leurs matchs. Alors, à part le match contre l'Australie, où ils ont un petit peu plus dominé, mais ils sont fait laver contre les États-Unis 4-1, contre la Turquie gagne 1-0, mais c'est un miracle, ils prennent ce fameux carton rouge, mais les Turcs ont frappé 30 fois au but. Et puis contre l'Allemagne, bon, il faut être très honnête, hein, les Allemands ont quand même eu les plus grosses occasions. Maintenant, il faut leur donner du crédit, ils jouent avec leurs armes, à part Enciso et Almiron, l'ancien joueur de Newcastle qu'on connaît un petit peu du côté de la première ligue, qui est maintenant de retour d'ailleurs en MLS du côté d'Atlanta. Il y a aussi Cubas, un milieu défensif qui joue à Vancouver, qui est un très bon joueur. Mais bon, enfin, aujourd'hui, t'es l'équipe de France. Il faut juste que l'équipe de France accepte de jouer contre un bloc bas. Ils l'ont fait contre l'Irak. Là, ça va être différent parce que c'est un match à élimination directe. Je pense qu'on va sûrement pas voir énormément de spectacles. La seule chose qui m'ennuie un petit peu, c'est justement le manque d'espace et donc les qualités d'Mbappé, les qualités de Barcola, les qualités de Dembélé vont peut-être être un petit peu compliquées à être exploitées. Mais voilà, on a la meilleure équipe. Donc, ça va être un match non pas facile, mais je vois bien l'équipe
prolonger.
De France gagner assez facilement.
Dans un instant, sur cette confrontation, France par demain 23h heure française, bien sûr. Merci Flo. Flo
Germain.
Merci
à vous, et je précise pour être très complet que ce sont surtout des ampoules qui ont été soignées sur le pied précieux de Michael Olise. Donc
mais attention,
on est dans
ampoules,
le détail, c'est important.
Ça permet ça par la lumière. On rappelle que la lumière est venue de Laurent Blanc.
La lumière est venue de Laurent Blanc et la lumière arrivera peut-être des ampoules de Michael Olise.
Voilà.
Vous êtes magnifique.
Merci Flo Germain.
Ciao les amis.
Sur RMC, Flo Gautreau reste à mes côtés. Maxime Chano également, il a mérité cette Coupe du Monde de travailler avec.
Dis-moi Nico, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Mais t'as raison Max, hein. Je veux dire simplement que t'as progressé avec nous au contact de l'équipe d'RMC.
Je te prends comme un compliment.
Et que t'es un crack maintenant de la famille.
Et cette voix avec une coupe de cheveux à la Flo Gautreau, on dirait vraiment Marines. Hein.
Allez, on revient dans un instant. Lionel Messi arrive sur la pelouse. Il joue dans moins de 40 minutes pour une place en 8e de finale de la Coupe du Monde face au Cap Vert. Reste avec nous. On fera un bel avant-match également. Vous écoutez RMC. L'After Live en direct de New York, 23h20 en France, 17h20 ici dans New Jersey.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamain.
Avec Florent Gautreau, avec Maxime Chano. Merci d'être avec nous en cette fin de soirée en France. On est là toute la nuit, vous le savez, les nuits de l'after jusqu'à 5h du matin, dans 40 minutes, un peu moins. Autre et avant-dernier 16e de finale de la Coupe du Monde, Argentine-Cap-Vert, les Argentins. Sur l'échauffement, on retrouve Edgar Groulot dans un instant. Et puis je vous rappelle également ce match à 3h30 du matin, horaire inhabituel entre la Colombie et le Ghana. On sera là pour le vivre en direct, en intégralité. Max Chano sera avec vous. Il va veiller cette nuit pour vous accompagner.
Bien évidemment.
Dans ce dernier 16e de finale de la compétition, on fera un bilan même des 16e au cours de la nuit. N'hésitez pas à vous connecter notamment sur la chaîne YouTube de l'After. Le chat est ouvert. Et puis sur Afterfoot TV, on est en direct à la radio sur RMC. Avant de reparler un peu des Bleus quand même, l'Argentine face au Cap-Vert. Edgar Groulot au commentaire de ce duel qui se passe à Miami au Hard Rock Stadium. Salut Edgar.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Edgar.
Les Argentins Edgar. À l'échauffement, un Dibu Martinez qui arbore une teinture aux couleurs de l'Argentine sur la tempe gauche de son crâne. C'est du Dibu Martinez quoi.
Non mais le spectacle pour l'instant il est pas sur la pelouse, il est déjà en tribune. C'est honnêtement on a l'impression d'être en Argentine. J'ai rarement vu, mais même dans le pays où se passe un match, autant de maillots de la même équipe, les mêmes maillots, le même flocage, tout le stade est couvert de maillots de l'Argentine. C'est exceptionnel. On a l'habitude de le voir à chaque Coupe du Monde, mais là c'est le step au-dessus évidemment, parce qu'il y a aussi énormément d'Argentins qui habitent aux États-Unis, parce que Messi, parce que Miami c'est le fief de Messi et de accessoirement Rodrigo De Paul. C'est vraiment, je pense qu'on va vivre en termes d'ambiance un moment assez exceptionnel ce soir.
Y a-t-il des surprises dans la compo argentine ?
Non, pas de surprise. Pas de surprise. C'est vraiment la compo à laquelle on s'attendait. Emiliano Martinez dans les cages, la défense centrale. Lisandro Martinez, Cristian Romero à gauche, Medina à droite, Molina au milieu de terrain, McAllister, Enzo Fernandez et Rodrigo De Paul. Et puis devant Almada, Lautaro Martinez et Lionel Messi.
Et pour le Cap-Vert, Edgar ?
Pour le Cap-Vert, Vosinha évidemment, l'une des stars de cette compétition, le gardien de 40 ans est titulaire dans les cages à gauche de la défense, Lopez Cabral à droite, Steven Moreira, l'ancien de Ligue 1, les deux centraux Borges et Lopez au milieu de terrain, Pina, les deux frères Duarte, Larros et De Roy, et puis devant Cabral à gauche, Ryan Mendes le capitaine à droite et Nuno Da Costa devant. Il y a quand même plusieurs visages qu'on connaît, qu'on a vu passer par la Ligue 1.
Voilà pour l'Argentine, bien sûr, Vosinha, là, le héros de la sélection, un des visages de la Coupe du Monde. On l'a dit, un compte Instagram à faire pâlir Maxime Chano.
C'est vrai.
Suivi.
C'est vrai.
Un homme qui est arrivé avec 30 000 followers sur Instagram, qui fait 7,7 millions de followers.
Ah d'accord, je pensais que tu parlais de moi.
Il n'est pas encore au niveau de
The Flow The Good
sur TikTok.
Bah, écoute, j'en avais 45 grâce à Nico, je suis monté à 45,5.
45 000, voilà. Ouais, 45 000.
Mais bon,
voilà. On l'a poussé un peu.
Ouais, il m'a aidé.
On l'a poussé.
Mais c'est-à-dire que tu as commencé la compétition avec plus d'abonnés que Vosinha.
Ah bah avec c'est sûr. Voilà, je regarde ma carrière.
Il y a de l'humilier là. Hein.
C'est pas mal.
Mais grâce à Nico, en tout cas, j'ai toujours peu de followers.
C'est que le début, Maxime. C'est que le début. C'est que le début de ton histoire.
Bah, rester à côté de toi, normalement, c'est censé m'aider. Mais là, j'ai l'impression que ça
t'es monté dans mon train, on va aller très très loin. On va pas dérailler. À tout à l'heure, Edgar, pour ce match que tu vas commenter. On sera dans quelques minutes avant le match pour en parler avec Flo et avec Maxime Chano, qu'attendre du Cap-Vert réellement. Est-ce que ça va être forcément une formalité pour les champions du monde argentins? On prolonge sur les Bleus. Désiré Doué était aussi en conférence de presse. On alterne, vous l'avez compris, en veille de match. Fut un temps où Hugo Lloris assurait quasiment toutes les conférences de presse en veille de match, aux côtés de Deschamps. Là, on tourne. Mbappé n'était pas là, c'est donc Désiré Doué qui est venu, qui est désormais un remplaçant, car a priori, on partira sur la même composition que celle qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale face à la Suède, avec donc un Barcola à gauche et non Désiré Doué. Écoutez Désiré Doué, comment vit-il la concurrence? Comment les Bleus vivent la concurrence dans ce mondial?
Comme je l'ai dit, on est dans un groupe, c'est la Coupe du Monde, c'est une compétition à part. Et aujourd'hui, le coach fait ses choix quand il aligne son 11 de départ. Mais comme je l'ai dit, tous les joueurs ont leur rôle à jouer, tous les joueurs sont importants. Et le moment venu, si Bradley doit jouer, il sera prêt. Si je dois jouer, je serai prêt et je répondrai présent. Il n'y a aucune animosité, je m'entends très très bien avec lui. Et au quotidien, on est tout le temps ensemble, ça change pas.
Voilà, nouvelle génération, la maturité en conférence de presse. Désiré Doué, c'est un gamin facile. La question peut être piégeuse, tu vois, il s'en sort très bien avec le sourire. Et puis bon, la sincérité, hein, il est effectivement ami de Bradley Barcola au quotidien à Paris. C'est inspiré un avis, notamment Flo. N'enterrons pas celui qui est désormais un remplaçant dans ce groupe, Désiré Doué. Jingle, Fogotro.
On devrait faire quand même la remise des trophées de la cérémonie des chapeaux au Panama. Pas mal.
Pas mal. C'était ici, ça, hein? jingle fourni pendant la Coupe du Monde.
Non, je passe pas. Je pense pas. C'est du congelé. On a décongelé mon jingle.
Alors pourquoi il ne faut pas enterrer le soldat doué?
Eh bien, il faut surtout pas l'enterrer parce que le match qu'on va avoir demain, on en vient d'en parler sur les qualités qui sont celles du Paraguay, à savoir une équipe qui va beaucoup défendre, qui va normalement laisser peu d'espace, peut-être moins que les Suédois. Et paradoxalement, Deschamps garde sa compo parce que c'est logique, il garde les hommes en forme. Et c'est vrai que Barcola en fait partie. Après, sans être caricatural sur les qualités de Doué et de Barcola, d'ailleurs, la question lui a été posée à Doué sur le fait de savoir si c'était caricatural que de dire Barcola est un joueur de grands espaces et de profondeur et vous êtes un joueur, vous, Désiré Doué, de petits espaces. Il a commencé en disant oui, c'est caricatural, mais quand il a défini les qualités des deux joueurs, il a quand même défini un peu la même chose et il a quand même dit, je pense pas du tout qu'il y avait un esprit malin de sa part, mais il a quand même réexpliqué ses propres qualités en disant que oui, dans les petits espaces, et notamment parce qu'il jouait plus souvent, enfin oui, il a plus souvent joué au milieu, dit-il, alors que Barcola est plus un ailier, c'était factuel, il pouvait effectivement apporter quelque chose. Et c'est justement en ce sens que moi je pense qu'il ne faut pas l'enterrer, c'est qu'il y a deux matchs maintenant, il y a même plusieurs matchs avec les pauses fraîcheurs, et il y a notamment la deuxième période dans un match qui est parfois compliqué contre un bloc bas. Et donc dans ce deuxième match qui va sans doute exister dans le France-Paraguay, eh ben Doué et effectivement sa capacité à faire la diff dans les petits espaces peut se révéler peut-être plus utile encore que Barcola, qui aura sans doute usé ses défenseurs avant, qui aura servi à cela. Et deuxième point, il y a un truc qu'on n'a pas encore vu de la part de Doué, ou très peu, c'est ces fameuses frappes à mi-distance. C'est-à-dire qu'avec le Paris Saint-Germain, il a très souvent fait la différence, évidemment sur des appuis et des petits dribbles et des éliminations dans le petit espace, mais il a aussi conclu avec des frappes assez incroyables et dont les Français finalement n'ont pas eu forcément énormément besoin, puisque Mbappé a été touché parfois dans la surface avec Olise comme passeur. Donc en fait, effectivement, mon avis, c'est que le facteur X, parce que c'est la définition du facteur X, c'est quand même plutôt quelqu'un qui entre et qui fait la différence. Je crois que c'est un terme ça a été utilisé beaucoup dans les sports US et en foot américain. En l'occurrence, je pense que Doué peut être le facteur X, et ce serait un bon signal quelque part dans la gestion du groupe. C'est-à-dire que oui, il y a des titulaires et des remplaçants, et sur ce côté gauche, en fait, peu importe quelque part qui est titulaire et remplaçant, mais en l'occurrence, on parle beaucoup de Barcola et de sa forme, et je pense que Doué peut choisir ce genre de match et de petits espaces pour se rappeler à notre bon souvenir.
Max, t'es d'accord avec Flo ?
Je suis entièrement d'accord avec Flo. Alors moi, j'aime beaucoup le petit Désiré Doué. Je vais déjà commencer par en dehors du terrain. Il me fait penser un petit peu à Kylian Mbappé à l'époque dans sa communication. Je le trouve très frais, je le trouve très intelligent, je le trouve très posé. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'il a dit sur Olise. Il a pas hésité à expliquer que pour lui, c'était presque un exemple. Alors que bon, il joue peut-être pas le même poste, mais en tout cas, c'est des offensives. Donc ça prouve aussi la bonne mentalité du gamin. Faut pas oublier qu'il a 21 ans. C'est le plus jeune, en tout cas, des offensifs. Il a 2 ans de moins que Barcola. Il a presque 2 ans de moins aussi que Ryan Cherki, juste pour faire la comparaison. Donc en fait, c'est un joueur qui a du temps devant lui, qui est sur une courbe de progression qui est intéressante, et notamment depuis qu'il a signé du Stade Rennais au Paris Saint-Germain. Donc par rapport à ça, moi j'aime beaucoup le personnage, et je pense que cette équipe de France a besoin justement de mecs comme lui, assez modestes, et ça permet justement une bonne entente entre les joueurs, entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Ça c'est l'extra sportif entre guillemets. Et après sur le terrain, et je rejoins aussi Flo par rapport à ses qualités, et notamment le ballon pied, quand même dire aussi Walid. Ce qu'il a en fait desservi, c'est que Barcola, en fait, la Coupe du Monde est en fait vraiment une compétition qui met en avant la performance de l'instant. Et c'est vrai que Barcola, à chaque fois qu'il
est joué, c'est une surprise pour toi de Barcola s'affirmer plus que Doué sur ce mondial.
Si tu fais la comparaison,
Doué partait devant. Hein, d'accord. Il démarre la compétition au titulaire.
Si tu fais la comparaison aussi un petit peu avec sa saison au Paris Saint-Germain, Barcola qui avait été énorme sur les 6 premiers mois, et puis après ça s'est inversé. C'est plutôt Doué qui a été très très bon. Donc c'est vrai que quand tu regardais un petit peu la dynamique de Désiré Doué au PSG, je pensais que sincèrement que Désiré Doué pouvait jouer en tout cas titulaire cette compétition. Après on sait une chose aussi, et l'expérience nous l'a montré, c'est que l'équipe qui commence en règle générale le premier match n'est pas celle qui termine. Et voilà, je le répète, aujourd'hui Barcola, il a saisi sa chance, il a été très très bon sur le dernier match face à une Suède, attention, qui lui donnait aussi l'opportunité de pouvoir un petit peu montrer ses qualités. Là j'attends de voir ce que ça venait contre un bloc bas, mais ça c'est vraiment la grande force de cette équipe de France, c'est qu'aujourd'hui tu peux faire sortir Barcola et faire rentrer Doué et tu perds pas en qualité, et ça c'est incroyable.
Un dernier point sur le Paraguay, les adversaires, c'est un peu un tapine, mais savoir que t'as Doué sur le banc qui peut entrer à tout moment. Moi, franchement, si je suis défenseur et que j'ai déjà 70 minutes sous la chaleur à me taper dans la caisse et à essayer de contrôler les Français, les quatre devant, je me dis que si tu vois paraître doué sur les changements et sur les panneaux de changement, tu fais la gueule.
Mais c'est vrai qu'en règle générale, tu aimes faire rentrer les offensifs qui prennent la profondeur après 60-70 minutes, une fois que les défenses commencent à être fatiguées et que les blocs sont écartés. C'est la raison pour laquelle moi j'avais vraiment pensé que Désiré Doué commencerait titulaire en règle générale dans ce tournoi et Didier Deschamps ferait le choix de faire rentrer Barcola après 60 minutes. Finalement, aujourd'hui, ça s'inverse, mais peu importe, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Barcola est aussi très bon dans les petits espaces.
Mais oui.
Maintenant, aujourd'hui, Désiré Doué, il a cette capacité aussi à permuter, à se mettre un peu aussi, et c'est ça que j'aime beaucoup. Oui. Il se met au diapason dès qu'il est Mbappé. Voilà, il prend sa position quand Mbappé aime dézonner sur le côté gauche. Aujourd'hui, c'est un joueur d'équipe, et ça, j'ai envie de mettre ça en avant parce que je trouve ça honorable de la part de Germain qui a énormément de potentiel.
Tu l'as dit. Est-ce que la différence de l'esprit des champs, peut-être, n'est pas là dans l'idée que Désiré Doué a tendance à vouloir forcer un petit peu la frappe, à garder la balle un peu trop, le dribble de trop également. Tu sais, c'est pas encore vraiment délesté, c'est sa nature. Lui, il est fan de Neymar absolument. La touche de trop, le dribble de trop.
Alors, je vais te dire, je suis pas certain au départ que ce soit le cas dans les grandes compètes et dans les grands matchs. Il fait toujours très attention à ne pas revenir sur ce péché mignon qu'on connaît depuis.
On l'a vu faire sur ce mondial.
Tout petit peu. Pourquoi? Parce que justement, comme tu l'as dit, il l'a notamment fait quand il était remplaçant. C'est-à-dire, quand tu es remplaçant, tu veux faire la diff.
Et donc,
tu veux prendre la frappe, tu veux prendre le dribble, tu veux faire la diff. Montrer que tu peux faire la diff. Je trouve que c'est toujours un peu piégeux. On dit, c'est bien parce que tu as une équipe usée en face et tu en profites. Oui. Mais tu as aussi, parfois, la tentation de vouloir faire la diff. Et ça, il l'a effectivement un peu comme péché mignon.
J'ai peu de temps, quelques minutes pour montrer.
Il faut que je me montre. Voilà. En revanche, ce qui sert aussi Barcola, et paradoxalement, beaucoup plus qu'au Paris Saint-Germain, les consignes sont très, très claires et finalement, il y a moins de permutations que cela au PSG que par rapport à l'équipe de France. Et Barcola, on le voit sur un côté, ou parfois des permutations, mais vraiment commandées par Luis Enrique qui disait genre, hop, vous changez gauche-droite, et c'est très, très clair. Là, il y a une forme de permutation et d'autogestion, j'ai envie de te dire, des quatre offensifs, qui est intéressante et qui permet aussi à Barcola de se retrouver dans la phase finale des actions, plus dans l'axe du but qu'il ne l'est au Paris Saint-Germain. Et je dis pas que c'est qu'il est toujours adroit, hein, parce que moi je le défends beaucoup, mais c'est vrai qu'il a été parfois dans la finition un peu en difficulté. Mais il se retrouve quand même au PSG toujours quasiment sur des zones de côté gauche où il a peu d'angle par rapport au gardien. Alors que là, il a mis deux buts où il s'est retrouvé l'un balle piquée face au gardien, but entier, parce que on lui permet aussi de revenir dans l'axe. Je pense qu'en gros, Barcola, il a un peu plus de liberté dans le schéma là de l'équipe de France que dans le schéma de Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est pour le fait que Barcola a pu se montrer aussi comme un buteur, parce que tout le monde disait il n'est pas à droit, il n'est pas à droit. Et quand il a le but en face versus les 30 degrés de côté gauche, il a plus d'espace et il n'est pas si maladroit que ça. Mais en revanche, je trouve que Doué, là où il a une longueur d'avance, qui ne s'est pas vue encore là, c'est que Doué, ce fameux déclenchement de frappe qui parfois surprend tout le monde, y compris les gardiens, oui. Je pense que c'est le genre de truc dans un bloc bas, face à un bloc bas qui peut faire la différence.
Et puis Doué, il a cette capacité aussi à être polyvalent, c'est-à-dire qu'en fonction du scénario du match, il peut descendre d'un cran, jouer au milieu de terrain, et c'est forcément un plus pour le sélectionneur des Bleus.
Voilà, pour l'équipe de France, on sera là demain, toute la journée, pour lancer ce duel face au Paraguay, ce huitième de finale. Rendez-vous 23h pour le coup d'envoi. Journée exceptionnelle avec Jean-Louis Tour qui sera au stade, bien sûr, une heure avant pour le coup d'envoi. On sera là aussi 2 heures avant en direct de New York pour faire monter la pression.
À Philadelphie, comme tu l'as dit, le jour du 150e anniversaire de l'indépendance des États-Unis et aussi le jour de la Saint-Florent, au passage.
Ah oui, demain Saint-Florent.
J'aurais dû commencer par là.
D'accord.
Mais c'était plus important que l'indépendance.
Avec toi autour de la table, oui, largement.
On revient dans un instant. Il est magnifique le stade également à Miami, théâtre de ce 16e de finale, l'avant-dernier, entre le Cap Vert, attraction de ce mondial, et l'Argentine de Léo Messi. Ils sont en fin d'échauffement, les joueurs argentins, avec Messi tel un général en figure de proue en tête du cortège. C'est impressionnant avec tous ces soldats derrière lui.
On dirait Flo Gautreau avec RMC.
Ou le marin.
On dirait Flo Gautreau avec RMC avec nous tous derrière.
En soirée, après minuit surtout. Restez avec nous dans un instant. La suite, c'est de l'After Live intégral Coupe du Monde. Vous écoutez RMC. Il est 23h35. À tout de suite.